Chapitre 16. Le problème à trois corps. Wang Miao venait tout juste de quitter le jeu lorsque le téléphone sonna. C'était Shi Qiang. Il avait quelque chose d'urgent à lui dire et lui intima de venir immédiatement le rejoindre au commissariat. Wang Miao regarda sa montre. Il était plus de 3 heures du matin. Le bureau de Shi Qiang était un vrai capharnaüm engorgé de fumée de cigarettes, ce qui obligeait la jeune officière de police qui partageait l'espace à se ventiler sans cesse le nez avec son registre. Shi Qiang la présenta. Su Bingbing, experte en informatique du département de sécurité de l'information. Wang Miao ne put contenir sa surprise lorsqu'il découvrit quelle était l'identité de la troisième personne à se trouver dans le bureau. Wei Cheng, le mari de Shen Yufei. Les cheveux en bataille, il leva les yeux pour regarder Wang Miao. Il paraissait avoir oublié qu'ils s'étaient déjà rencontrés par le passé.
Navré de vous avoir dérangé, mais apparemment vous ne dormiez pas.
Quelque chose est arrivé, mais je n'en ai pas encore informé le centre d'opérations militaires. J'avais besoin de vos conseils. Puis il se tourna vers Wei Cheng.
Racontez-lui.
Je vous l'ai déjà dit, je suis en danger de mort, dit Wei Cheng avec une mine abasourdie.
Commencez depuis le début.
D'accord, depuis le début, mais ne vous plaignez pas si ça traîne en longueur. Ça fait quelque temps que j'avais besoin de raconter cette histoire à quelqu'un.
Il se tourna vers Su Bingbing.
Vous n'avez pas besoin de prendre des notes?
Ce n'est pas utile maintenant. Vous n'aviez personne à qui parler? Demanda Shi Qiang, qui ne voulait laisser passer aucune occasion d'obtenir des informations.
Non, ce n'est pas ça, mais j'étais trop paresseux pour en parler. J'ai toujours été très paresseux.
Récit de Wei Cheng.
Je suis un feignant. Depuis tout petit, quand je vivais dans le dortoir de l'école, je ne lavais jamais mon bol, je ne pliais jamais mes draps, je ne m'intéressais à rien. J'avais la paresse d'étudier, la paresse de jouer, et les jours passaient sans que j'aie vraiment de but dans la vie. Pourtant, je savais que j'avais certains dons que les autres enfants n'avaient pas. Par exemple, si vous traciez une ligne droite, j'étais capable de tracer une autre ligne partant de celle-ci, dont vous pouviez être sûr que le rapport était égal au nombre d'or, 1,618. Mes camarades disaient que je ferais un bon charpentier, mais je savais que mon talent ne s'arrêtait pas là. J'avais une sorte de don pour les chiffres et les figures. Toutefois, mes notes en mathématiques étaient aussi catastrophiques que dans les autres matières. Durant mes examens de maths, j'étais si feignant que je ne prenais pas la peine de rédiger la démonstration qui m'avait permis de donner le bon résultat. Je devinais les réponses, qui étaient justes dans 99% des cas, mais j'avais quand même de mauvaises notes. En deuxième année de lycée, un professeur de mathématiques m'a repéré. À l'époque, un certain nombre d'enseignants du secondaire étaient des génies de la science. Lors de la Révolution culturelle, beaucoup de grands scientifiques avaient été chargés d'enseigner dans les collèges et les lycées. Mon professeur était l'un d'entre eux. Un jour, après les cours, il m'a demandé de rester dans la classe et a écrit une dizaine de suites arithmétiques sur le tableau noir. Puis il m'a demandé de donner directement leur somme. J'en ai rapidement donné un certain nombre et j'ai pu dire au premier coup d'œil lesquelles étaient divergentes. Le professeur a sorti un livre, une anthologie des enquêtes de Sherlock Holmes. Il l'a feuilleté et s'est arrêté à une page. Je crois bien que c'était dans Une étude en rouge. La scène de l'histoire était à peu près celle-ci. Watson remarque un individu lambda qui tient une enveloppe à la main. Il le désigne à Holmes qui lui dit « Vous parlez de ce sergent d'infanterie de marine à la retraite ?» Watson est très intrigué et demande à savoir comment Holmes s'y est pris pour deviner l'identité de l'individu. Holmes lui-même n'est pas très sûr. Il réfléchit un bon moment avant d'énumérer les détails qui lui ont permis d'en arriver à cette déduction. La main de l'homme, sa démarche. Holmes ajoute que sa difficulté à se justifier n'est pas si étrange. On est bien embarrassé quand il s'agit de prouver que 2 et 2 font 4. Le professeur a refermé le livre et m'a dit « Tu es comme Sherlock Holmes.
Tes déductions sont si rapides et si instinctives que tu as du mal à expliquer comment tu t'y es pris. » Puis il m'a demandé « Que ressens-tu quand tu vois une suite arithmétique ? Je parle bien de tes sentiments. » Je lui ai répondu que n'importe quelle combinaison de chiffres m'apparaissait comme une figure en trois dimensions. Bien sûr, je n'arrivais pas à dire quelle était la forme de la figure en question, mais j'étais sûr qu'elle en avait une. « Et quand tu vois des figures géométriques ?» J'ai répondu que c'était le contraire. Je me les représentais mentalement sous la forme non pas de figures, mais de nombres. Un peu comme quand vous regardez les photos d'un journal de très près et que vous voyez comme des petits points. Bien sûr, de nos jours, les photos des journaux ne font plus cet effet-là. « Tu as vraiment un don pour les mathématiques, m'a dit le professeur, mais... » Il a encore ajouté beaucoup de « mais » et a tourné en rond au milieu de la salle de classe, comme si mon cas était très difficile à traiter et qu'il ne savait pas quoi faire de moi. « Mais les gens comme toi ne mettent pas assez leurs dons en valeur. » Il a réfléchi pendant longtemps et a eu l'air de vouloir laisser tomber, mais il a fini par lâcher. « Et si tu allais participer au concours de mathématiques du district le mois prochain, je ne t'enseignerai plus rien à partir d'aujourd'hui. Pour quelqu'un comme toi, c'est une perte de temps. Souviens-toi simplement de bien écrire les démonstrations par lesquelles tu es arrivé à résoudre les problèmes. » J'ai donc participé au concours, celui du district d'abord, puis tous les suivants jusqu'aux Olympiades internationales de mathématiques de Budapest, où j'ai remporté toutes les épreuves. À mon retour, j'ai intégré directement le département de mathématiques d'une prestigieuse université en étant dispensé d'examen d'entrée. Ça ne vous ennuie pas, ce que je raconte ? Ah, tant mieux, il était nécessaire de dire tout cela avant de raconter la suite. Mon professeur de lycée avait vu juste, je ne mettais pas suffisamment mes talents en valeur. Licence, maîtrise, doctorat, j'ai tout réussi, mais en dilettante. Ce n'est qu'une fois confronté au monde du travail que j'ai découvert que je n'étais qu'un bon à rien et que je ne savais rien faire d'autre que des mathématiques. Je me mettais en état de semi-hibernation dès que des rapports avec d'autres personnes devenaient plus complexes. Plus j'essayais de faire des efforts et plus je m'enfonçais. J'ai fini par devenir professeur à l'université, mais sans succès. Je ne préparais pas sérieusement mes cours et me contentais d'écrire, facile à démontrer, sur le tableau. Mes étudiants devaient se débrouiller avec ça pendant des heures. Plus tard, quand a été mis en place le système d'évaluation des professeurs par les élèves, on ne m'a plus jamais confié aucun cours. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être dégoûté de tout. Je suis parti avec un seul bagage dans le sud, dans un temple enfoui dans la montagne. Oh non, je ne suis pas devenu moine, j'étais bien trop feignant pour ça. J'avais juste envie de vivre un moment dans un endroit vraiment pur. Le vieil abbé qui dirigeait le monastère était un ami de mon père. C'était un homme d'une grande érudition qui, arrivé à un certain âge, avait choisi de tout abandonner pour entrer dans les ordres. Comme le disait mon père, à son niveau, c'était le seul chemin possible. L'abbé a accepté que je reste. Je lui ai dit que je cherchais un endroit paisible pour passer le restant de mes jours. Toutefois, l'abbé m'a répondu que le temple n'était pas particulièrement tranquille, qu'il était truffé de touristes et de pèlerins. La vraie paix pouvait être trouvée dans les villes les plus tumultueuses, mais pour y parvenir, il fallait avant tout faire le vide en soi. J'ai répondu que j'étais suffisamment vide, que je me sentais aussi léger qu'un nuage et que tous les moines du temple étaient plus matérialistes que moi. L'abbé a secoué la tête en disant « Le vide n'est pas le néant. Le vide est une forme d'existence. Tu dois te remplir de cette existence du vide. » Ces paroles m'ont inspiré. Plus tard, en y repensant, je me suis fait la réflexion que ce n'était pas du tout un précepte bouddhiste, mais plutôt une théorie physique moderne. L'abbé a ajouté que nous ne parlerions pas de bouddhisme ensemble pour la même raison que celle invoquée par mon professeur de lycée. Pour quelqu'un comme moi, c'était une perte de temps. Le premier soir, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil dans ma petite chambre du dortoir de la cour du temple. Je n'avais pas imaginé que ce refuge hors du monde pouvait être si inconfortable. Ma couverture et mon matelas étaient humides à cause de la brume et mon lit était dur comme de la pierre. Aussi, pour m'endormir, j'ai essayé de faire comme me l'avait dit l'abbé, me remplir de vide. Le premier vide que j'ai créé dans ma conscience a été l'infinité de l'espace. Un espace sans rien dedans, pas même de la lumière, un ciel entièrement vide. Mais bientôt, j'ai découvert que cet univers sans fin ne parvenait pas à m'apaiser. Me retrouver au milieu de cet univers me mettait au contraire mal à l'aise, comme un noyé n'arrivant pas à trouver une prise pour remonter à la surface. J'ai donc créé une sphère au cœur de cet univers, pas trop grande, une sphère possédant une masse. Mais je ne me suis pas senti beaucoup mieux. La sphère flottait en plein milieu du vide, bien qu'en fin de compte, dans un espace infini, le milieu soit partout. Au sein de cet univers, rien ne pouvait agir sur cette sphère, et elle-même ne pouvait agir sur rien. Elle était seulement là, suspendue, sans jamais faire le moindre mouvement, sans jamais connaître le moindre changement. La métaphore parfaite de la mort. Alors j'ai créé une deuxième sphère, à peu près avec la même masse que la première. Leur surface était composée d'une matière miroitante et elles se renvoyaient leurs reflets, seules entités existantes dans tout l'univers. Mais la situation ne s'est pas améliorée, car si chacune des deux sphères n'avait pas de mouvement initial, c'est-à-dire sans poussée de ma part, elles seraient certainement attirées l'une contre l'autre par leur champ gravitationnel. Puis les deux sphères resteraient suspendues ensemble, immobiles, comme un symbole de mort. Si elles avaient un mouvement initial et n'entraient pas en collision, elles finiraient par faire leur révolution chacune autour de l'autre sous l'influence de leur gravité. Peu importe le mouvement d'impulsion initiale, leur cycle de révolution finirait par se stabiliser et devenir à jamais inchangé comme une danse de mort. Alors, j'ai introduit une troisième sphère. Et il s'est produit un changement étonnant. Comme je vous l'ai dit, toutes les figures géométriques apparaissent dans mon esprit sous la forme de chiffres. Les univers précédents, ceux sans sphère, avec une ou deux sphères, s'étaient manifestés sous la forme d'une ou plusieurs équations, telles les feuilles d'arbres solitaires d'un automne tardif. Mais l'ajout de la troisième sphère a fait s'incarner quelque chose de nouveau. Le vide. Dès les mouvements initiaux donnés aux sphères, celles-ci ont commencé à se mouvoir de façon complexe dans l'espace, comme une chorégraphie chaque fois inédite. Les équations descriptives se sont cette fois mises à pleuvoir comme une averse sans fin. C'est ainsi que j'ai réussi à m'endormir. Les trois sphères continuaient à danser dans mes rêves. C'était une valse déréglée, éternellement changeante. Pourtant, au fond de moi, cette valse avait trouvé un rythme. C'était simplement que sa cadence était infiniment longue. J'étais fasciné. Je voulais chercher à décrire l'intégralité, ou du moins une partie de cette cadence. Le lendemain, je ne pouvais m'ôter de l'esprit ces trois sphères dansant dans le vide. Jamais mon cerveau n'avait autant carburé, si bien que des moines ont demandé à l'abbé si je n'avais pas des problèmes mentaux. L'abbé a répondu en riant que j'allais bien, que j'avais trouvé le vide. Oui, j'avais trouvé le vide. Désormais, même au beau milieu de la foule grouillante d'une ville surpeuplée, mon cœur serait paisible. Pour la première fois, les mathématiques m'amusaient. Les principes physiques du problème à trois corps étaient en réalité très simples. C'était un banal problème mathématique. Je me suis senti comme un homme qui aurait couru les jupons la moitié de sa vie et qui tomberait soudain amoureux pour la première fois. « N'aviez-vous jamais entendu parler de Poincaré ?» l'interrompit Wang Miao. « Non, pas à l'époque. Je sais bien qu'un étudiant en mathématiques se doit d'être familier des théories de Poincaré, mais je ne révérais aucun grand maître et je ne voulais pas non plus en devenir un moi-même. Mais je crois qu'en ce temps-là, même si j'avais connu les conclusions de Poincaré, j'aurais continué à travailler sur le problème à trois corps. Tout le monde croit que Poincaré a prouvé que le problème à trois corps est insoluble, mais à mon avis, c'est un malentendu. Il n'a fait que montrer la sensibilité aux conditions initiales et prouver qu'un système à trois corps n'était pas un système intégrable. Mais sensibilité ne veut pas dire pour autant incertitude totale. C'est simplement que cette incertitude implique un plus grand nombre de solutions admissibles. Ce qu'il fallait, c'était un nouvel algorithme. J'ai tout de suite pensé à quelque chose. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode de Monte Carlo? Non? Il s'agit d'un algorithme informatique souvent utilisé pour calculer l'aire d'une forme géométrique irrégulière. Le principe est le suivant. Le logiciel insère la forme géométrique dont on veut connaître l'aire à l'intérieur d'une autre forme dont l'aire est connue, puis il mitraille l'ensemble de petites billes en veillant à ce que chaque bille n'atteigne jamais la même cible. Ces tirs aléatoires se poursuivent durant un certain temps, jusqu'à ce que chaque espace ait été touché au moins une fois. Arrivé à ce stade, le logiciel propose un graphique indiquant combien de billes ont atteint l'aire de la forme géométrique connue et combien ont touché celle recherchée. À partir de là, il est possible d'estimer l'aire de la surface irrégulière. Bien entendu, plus les billes sont petites, plus le résultat est précis. Cette méthode est certes simple, mais elle montre comment, en mathématiques, la rudesse de l'aléatoire peut triompher de la logique et de la précision. Autrement dit, c'est une approche de calcul qui utilise la quantité pour arriver à la qualité. C'était la stratégie que j'avais choisie pour résoudre le problème à trois corps. J'ai donc étudié le mouvement des trois sphères section de temps après section de temps. À chaque section de temps, il existait des combinaisons infinies de vecteurs de mouvement. Je traitais chacune de ces combinaisons comme des entités vivantes. L'important était d'établir un ensemble de règles. Quelles combinaisons de vecteurs de mouvement étaient saines et bénéfiques et lesquelles étaient nuisibles et néfastes? La première catégorie avait plus de chances de survivre tandis que la seconde était désavantagée. Ce type de calcul m'amenait à procéder par élimination. Je conservais les combinaisons saines et bénéfiques et j'éliminais celles que j'estimais nuisibles et néfastes. Les combinaisons restantes étaient les prédictions exactes de la prochaine configuration du système des trois corps. Un algorithme évolutionnaire, en somme, dit Wang Miao. Je crois que j'ai bien fait de vous faire venir, dit Shi Xiang en hochant la tête. Oui, mais ce n'est que bien plus tard que j'ai eu connaissance de ce terme. Mon algorithme se caractérise par la masse immense de calculs à effectuer. Pour résoudre de cette manière le problème à trois corps, les ordinateurs existants de nos jours ne suffisent pas. Imaginez qu'à l'époque, dans le temple, je ne disposais même pas d'une calculatrice, je n'avais qu'un cahier blanc et un stylo récupérés auprès du bureau de comptabilité du temple. J'ai commencé à construire mon modèle mathématique sur le cahier, mais cela demandait beaucoup de travail et très vite j'ai fini plus d'une dizaine de cahiers, ce qui faisait enrager les moines trésoriers. Mais sur injonction de l'abbé, ils acceptaient à contre-cœur de me donner d'autres cahiers et d'autres crayons pour poursuivre mes calculs. Je mettais les résultats sous mon oreiller et je jetais les brouillons dans le brûloir à encens de la cour du temple. Un soir, une jeune femme a soudain fait irruption dans ma chambre. C'était la première fois qu'une femme entrait chez moi. Elle tenait dans la main des morceaux de papier aux extrémités brûlées, les brouillons que j'avais jetés dans le brûloir. Ils disent que c'est à vous. Vous étudiez le problème à trois corps? A-t-elle demandé avec précipitation. Derrière ses grosses lunettes, ses yeux semblaient en feu. J'étais très surpris par la question de cette femme. Mes calculs mathématiques étaient très peu conventionnels et je ne prenais pas la peine de donner le détail de mes déductions. Pourtant, chose inouïe, elle avait pu deviner rien qu'à mes brouillons qu'elle était l'objet de ma recherche. Elle devait avoir un don rare pour les mathématiques et je pouvais presque être sûr que, comme moi, elle était plongée dans l'étude du problème à trois corps. Les touristes et les pèlerins qui venaient ici ne me faisaient pas une bonne impression. Les touristes ignoraient totalement ce qu'ils étaient venus chercher. Ils se contentaient de courir à droite et à gauche pour prendre des photos. Quant aux pèlerins, ils étaient visiblement plus pauvres que les touristes et paraissaient tous être dans un état de torpeur et d'inhibition intellectuelle. Mais cette jeune femme était différente. Elle avait l'apparence d'une scientifique. J'ai su par la suite qu'elle était venue ici avec un groupe de touristes japonais.
Sans même attendre ma réponse, elle a poursuivi. « Votre approche est brillante. Cela faisait longtemps que nous cherchions une méthode capable de changer l'épineux problème à trois corps en une question capable d'être traitée par une masse, même considérable, de calculs. Mais il est nécessaire d'avoir un ordinateur suffisamment puissant. » Je lui ai répondu sincèrement. « Tous les ordinateurs du monde réunis n'y parviendraient pas. Mais vous avez tout de même besoin d'un environnement de recherche approprié, ce dont vous ne disposez pas ici. » Je peux vous offrir la chance d'utiliser un ordinateur très puissant et je vous donnerai aussi un mini-ordinateur. Nous partons demain matin. C'était Shen Yufei. Déjà à l'époque, elle était tranchante et autoritaire, mais elle était plus séduisante qu'aujourd'hui. J'étais d'une nature froide et j'avais encore moins d'intérêt pour les femmes que pour les moines qui gravitaient autour de moi. Mais Shen Yufei avait quelque chose de spécial. C'était précisément son absence de féminité qui m'attirait le plus chez elle. Quoi qu'il en soit, je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai accepté sa proposition. La nuit, je ne suis pas arrivé à trouver le sommeil. J'ai enfilé un maillot et je suis sorti dans la cour. Au loin, dans l'obscurité de la salle principale du temple, j'ai aperçu la silhouette de Shen Yufei. Elle brûlait un bâton d'encens devant une statue du Bouddha et ses gestes paraissaient empreints de dévotion. Je me suis approché sans bruit de la porte d'entrée du temple et je l'ai entendu psalmodier cette prière. « Bouddha, bénis mes dieux, sauve-les de leur mère de souffrance éternelle. » Je pensais avoir mal entendu, mais elle a murmuré une nouvelle fois « Bouddha, bénis mes dieux. » « Sauve-les de leur mère de souffrance éternelle. » Je ne m'y entendais pas en religion, et je n'y portais de toute façon aucun intérêt, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister des prières aussi étranges. Je n'ai pu m'empêcher de lui demander « Que dites-vous ?» Shen Yufei n'a pas semblé se préoccuper de ma présence. Elle a gardé les yeux fermés et les mains jointes, comme si elle attendait que sa prière monte vers le Bouddha, en même temps que la fumée de l'encens. Elle n'a ouvert les yeux qu'après un bon moment et s'est tournée vers moi. « Allez dormir. Nous partons tôt demain matin, » a-t-elle dit, sans me regarder. « Les dieux dont vous avez parlé, est-ce que ce sont des divinités bouddhistes ? » ai-je demandé. « Non. » « Mais alors ?» Shen Yufei est parti sans un mot et a accéléré le pas. Je n'ai pas eu le temps de l'interroger davantage. J'ai répété la prière au fond de moi, je la trouvais de plus en plus mystérieuse. Puis une peur insensée s'est insinuée en moi, alors je me suis hâté d'aller frapper à la porte de la chambre de l'abbé. Qu'est-ce que cela signifie lorsque quelqu'un prie un dieu de protéger d'autres dieux ? Ai-je demandé, en lui rapportant en détail la scène à laquelle j'avais assisté. L'abbé regardait le livre qu'il tenait entre les mains, mais il était évident qu'il ne lisait pas. Il écoutait mon récit. Il a fini par me dire « Sors d'abord un moment, laisse-moi réfléchir. » J'ai quitté la chambre, conscient qu'il était inhabituel pour l'abbé d'agir ainsi. C'était un homme d'une grande sagesse qui pouvait répondre à des questions sur la religion, l'histoire ou la culture sans même avoir besoin de réfléchir. J'ai attendu derrière la porte le temps d'une cigarette et l'abbé m'a rappelé. « Je ne vois qu'une seule possibilité. » dit-il avec une mine sinistre. « Laquelle ? Quelle possibilité ? Cette religion existe-t-elle ? Une religion dont les dieux ont besoin que leurs fidèles prient un autre dieu de les sauver ?»« Ces dieux, ils existent réellement. » Cette phrase m'a rendu perplexe. « Mais le Bouddha n'existe pas réellement ?» Aussitôt après avoir prononcé cette phrase, je me suis rendu compte de mon blasphème et je me suis platement excusé. L'abbé a doucement secoué les mains. « Je te l'ai déjà dit, rien ne sert de parler de bouddhisme entre nous. Le Bouddha existe d'une manière qu'il te serait impossible d'appréhender. Les dieux dont parle cette femme, eux, existent d'une manière qu'il t'est possible de comprendre. Je ne peux pas t'en dire plus, mais si je peux te donner un conseil... « Ne pars pas avec elle. »« Pourquoi ?»« Ce n'est qu'une intuition. J'ai l'impression que derrière elle, se cachent des choses que ni toi ni moi ne sommes en mesure d'imaginer. Je suis sorti de la chambre de l'abbé et j'ai traversé la cour du temple jusqu'à ma chambre. C'était la pleine lune. J'ai levé la tête et je me suis senti observé par un étrange œil argenté. La lueur de la lune était froide et angoissante. Le lendemain, je suis parti avec Shen Yufei. Je ne pouvais de toute façon pas rester indéfiniment dans le temple. Mais je ne m'étais pas attendu à vivre les années qui ont suivi comme dans un rêve. Shen Yufei avait tenu sa promesse. J'avais désormais en ma possession un mini-ordinateur et pouvais bénéficier d'un environnement agréable pour faire mes calculs. Nous nous sommes même rendus plusieurs fois à l'étranger pour utiliser un ordinateur très performant. Je n'avais pas besoin de partager son temps d'utilisation, et toutes les capacités de l'unité centrale de traitement étaient consacrées à mes seuls calculs. Elle avait énormément d'argent dont j'ignorais la provenance. Plus tard, nous nous sommes mariés, moins par amour ou par passion que par commodité. Nous avions chacun une mission à accomplir. Je peux dire que les années qui ont suivi m'ont semblé passer aussi vite qu'une simple journée. Je vivais paisiblement. Dans cette ville-là, je n'avais qu'à tendre la main pour obtenir à manger. Je pouvais me consacrer entièrement à la recherche du problème à trois corps. Yufei n'interférait jamais dans ma vie. J'avais une voiture dans le garage que je pouvais prendre pour aller où je voulais. J'ose même affirmer que si j'avais ramené une fille à la maison, elle ne m'en aurait pas tenu rigueur. Elle ne se préoccupait que de ma recherche et les seules discussions que nous avions quotidiennement avaient pour sujet le problème à trois corps. Elle voulait savoir chaque jour l'état d'avancement de mes calculs.
Connaissez-vous les autres activités de Shen Yufei ? Demanda Shi Tiang.
Vous voulez parler des frontières de la science ? Elle y passe ses journées. Des gens viennent tous les jours à la maison.
Elle ne vous a jamais proposé d'en devenir membre ?
Jamais. Pour tout dire, elle est très discrète à ce sujet et ça me va très bien. Je suis comme ça, je me fiche de pas mal de choses. Elle connaît parfaitement cet aspect de ma personnalité et elle dit que je suis un feignant sans aucun sens de la mission, que la société n'est pas faite pour moi et qu'au contraire cela perturberait mes recherches.
Avez-vous avancé dans vos recherches sur le problème à trois corps ? Demanda Wang Miao.
Au regard de l'état actuel des recherches, je peux dire que mes progrès constituent une grande avancée. Il y a quelques années, Richard Montgomery de l'Université de Californie à Santa Cruz et Alain Chancinet de l'Université Paris Diderot, avec l'aide de chercheurs de l'Institut français de mécanique céleste, ont découvert grâce à une méthode variationnelle la possibilité d'une stabilité du mouvement des trois corps. Dans des conditions initiales particulières, les trois corps se déplacent sur une même orbite en forme de 8. Après cette découverte, beaucoup d'autres scientifiques se sont acharnés à chercher des configurations stables dans le cas de conditions initiales spécifiques. Chaque nouvelle découverte a été célébrée en grande pompe. À l'heure actuelle, seules 3 ou 4 configurations de ce type ont été découvertes. Mais grâce à mon algorithme évolutionnaire, j'en ai pour ma part déjà trouvé une centaine. Avec les dessins de ces orbites, je crois bien que je pourrais ouvrir une galerie d'art postmoderne, mais ce n'est pas mon but. Pour arriver à résoudre réellement le problème à trois corps, il faut créer un modèle mathématique qui, du moment que l'on connaît les vecteurs de mouvements initiaux, puisse nous permettre de prédire avec certitude les prochains mouvements des trois corps. C'est aussi le but recherché par Shen Yufei. Mais cette vie paisible s'est achevée hier. Mes ennuis ont commencé.
Est-ce la plainte que vous êtes venu déposer ? Demanda Shi Tiang.
Oui. Hier, un homme a téléphoné. Il m'a dit que si je ne cessais pas immédiatement mes recherches, je serais assassiné.
Qui était cet homme ?
Je ne sais pas.
Son numéro de téléphone ?
Je ne sais pas, l'appel était masqué.
D'autres informations en lien avec cette menace ?
Je ne sais pas. Shi Tiang ricana et jeta son mégot de cigarette.
Vous nous avez raconté votre vie et votre plainte tient à la fin en une phrase et en une série de « je ne sais pas ».
Si je ne vous avais pas raconté ma vie, comme vous dites, auriez-vous compris ? Et puis, s'il n'y avait eu que ça, je ne serais pas venu. Rappelez-vous bien que je suis paresseux par nature.
Hier soir, enfin au milieu de la nuit, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, bref, pendant que je dormais, j'ai senti vaguement comme quelque chose de froid qui bougeait sur mon visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Yufei. J'ai eu une de ces frousses. Qu'y a-t-il d'effrayant à voir sa femme dans son lit au milieu de la nuit? Son regard. Un regard qu'elle n'avait jamais eu auparavant. La lumière bleutée des lampadaires du jardin se reflétait sur son visage. On aurait dit un fantôme. Elle tenait quelque chose dans sa main. Un pistolet. Elle frôlait mon visage avec le canon du pistolet en me disant que je devais continuer mes recherches sur le problème à trois corps, que sinon elle me tuerait. Voilà qui devient un peu plus intéressant, dit Shi Tiang en hochant la tête avec satisfaction et en s'allumant une nouvelle cigarette. Intéressant? Écoutez, je n'avais nulle part où aller, c'est pour ça que je suis venu ici. Répétez au mot près ce qu'elle vous a dit. Elle a dit, si tu réussis à résoudre le problème à trois corps, tu deviendras le sauveur du monde. Mais si tu t'arrêtes maintenant, tu seras considéré comme un profanateur. Si quelqu'un pouvait choisir entre sauver l'humanité ou la détruire, ton choix à toi vaudrait le double. Shi Tiang cracha une épaisse fumée. Il fixa Wei Cheng pendant un moment jusqu'à ce que ce dernier se sente troublé. Puis il saisit un cahier dans le fourbi de sa table et prit un stylo. « Vous vouliez qu'on prenne des notes, n'est-ce pas? Répétez-moi ce que vous venez de dire. » Wei Cheng répéta une nouvelle fois les paroles de Shen Yufei. Wang Miao intervint. Cette phrase est très étrange. Pourquoi le double? Wei Cheng cligna des yeux et dit à Shi Tiang. C'est sérieux, n'est-ce pas? Dès que je suis arrivé ici, le policier de garde m'a envoyé vers vous. On dirait que vous nous aviez déjà à l'œil. Shi Tiang hocha la tête. Encore une question. Pensez-vous que le pistolet de votre femme était un vrai? Voyant que Wei Cheng ne savait comment répondre, il ajouta. « Le pistolet avait-il une odeur d'huile ?»« Oui, j'en ai la certitude, il sentait l'huile. »« Bien, » dit Shi Tiang qui sauta de la table où il était assis, « on a au moins ça. Suspicion de port illégal d'armes à feu. »« Ça suffira pour une perquisition, nous remplirons les papiers demain, nous devons agir immédiatement. » Il se tourna vers Wang Miao. « Mon vieux, je vais avoir besoin de vous. » Puis il lança à Su Bingbing qui n'avait pas encore parlé. « Bing Bing, je n'ai que deux gars avec moi en service cette nuit, ça ne suffit pas. Je sais bien que les membres du département de sécurité de l'information préfèrent leur bureau douillet au terrain, mais aujourd'hui, je vais avoir besoin d'une pro comme toi avec nous. » Su Bing Bing fit rapidement oui de la tête, trop heureuse d'avoir enfin l'opportunité de quitter cet espace enfumé. Outre Shi Tiang et Su Bing Bing, l'équipe chargée de l'investigation était aussi composée de deux autres officiers de la brigade criminelle. Avec Wang Miao et Wei Cheng, ce fut donc un groupe de six personnes qui se répartit dans deux voitures de police et, dans l'obscurité précédant l'aube, partit en direction des quartiers résidentiels à la périphérie de la ville. Su Bingbing et Wang Miao étaient assis à l'arrière. La voiture avait à peine démarré que la jeune femme glissa à voix basse à Wang Miao. « Professeur Wang, vous êtes célèbre dans le monde des trois corps. » Wang Miao se trouva désorienté d'entendre quelqu'un mentionner les trois corps dans le monde réel. Il eut l'impression que la distance entre lui et cette jeune femme en uniforme s'était estompée. « Vous y jouez ?»« J'ai pour mission de surveiller ce qui se passe dans le jeu, ce n'est pas une tâche amusante. » Wang Miao s'empressa de l'interroger. « Pouvez-vous me dire ce qui se cache derrière ce jeu? Je meurs d'envie de savoir. » Grâce à la faible lueur des réverbères filtrant à travers la fenêtre des véhicules, Wang Miao vit se dessiner sur les lèvres de Su Bingbing un mystérieux sourire. « Nous aimerions le savoir nous-mêmes, mais tous leurs serveurs sont basés à l'étranger. Le système et le pare-feu sont très sécurisés et c'est dur d'y entrer. Nous savons peu de choses, mais nous sommes sûrs que le jeu n'a pas été créé dans un but lucratif. Le niveau du logiciel est élevé, je dirais même anormalement élevé. La somme des informations contenues, elle aussi, est, comme vous le savez, peu commune pour un jeu en ligne. Avez-vous... » Wang Miao s'attacha à choisir ses mots. « Avez-vous trouvé des traces de phénomènes surnaturels ? » Ce n'est pas l'hypothèse que nous retenons pour l'instant. Beaucoup de gens participent au développement du jeu partout dans le monde. Ces méthodes de collaboration ressemblent un peu à celles utilisées pour le développement du système Linux. Mais cette fois, ils utilisent sans aucun doute des outils de développement de pointe. Quant aux informations stockées, nous n'avons pas la moindre idée de leur provenance. Il y a quelque chose d'un peu surnaturel, comme vous dites. Mais nous croyons au précepte du commissaire Shi. Il y a forcément des humains derrière tout ça. Nos filatures sont efficaces, nous obtiendrons bientôt des résultats.
La jeune fille ne savait pas mentir. Sa dernière phrase trahissait le fait qu'elle lui cachait encore beaucoup d'informations.
« C'est un précepte devenu célèbre alors ?» dit Wang Miao en regardant Shi Xiang qui était au volant. Il ne faisait pas encore jour lorsqu'ils arrivèrent à la villa. Une chambre était allumée à l'étage, mais le reste de la bâtisse était plongé dans le noir.
Dès que Wang Miao fut descendu de voiture, il entendit une série de bruits venant de l'étage, comme si quelque chose heurtait le mur. Shi Xiang, qui venait de descendre du véhicule, fut aussitôt sur le qui-vive. Il ouvrit la porte de la cour d'un coup de pied et, précédant ses trois collègues, il se rua dans la villa avec une agilité surprenante pour son corps massif. Wang Miao et Wei Cheng les suivirent dans la maison. Ils montèrent à l'étage par l'escalier du salon et entrèrent dans la chambre dont la lumière était allumée. Leurs pieds pataugeaient dans une mare de sang. C'était la même heure que lorsque Wang Miao avait découvert l'autre nuit Shen Yufei en train de jouer aux trois corps. À présent, celle-ci était étendue au milieu de la pièce et du sang coulait des impacts de balles qui avaient percé sa poitrine. Une troisième balle avait transpercé son sourcil gauche et son visage était maculé de sang. Non loin d'elle, un pistolet baignait dans une flaque de sang. Au moment même où Wang Miao entra, Shi Xiang et un de ses collègues s'engouffrèrent dans la chambre sombre d'en face. Sa fenêtre était grande ouverte. Wang Miao entendit un bruit de voiture en train de démarrer. L'officier qui se trouvait dans la chambre de Shen Yufei passa un coup de téléphone, tandis que Su Bingbing observait avec anxiété la scène d'un peu plus loin. Comme Wang Miao et Wei Cheng, c'était sans doute la première fois qu'elle assistait à un pareil tableau. Shi Xiang revint rapidement et, tout en rangeant son pistolet dans le holster de sa poitrine, il dit au policier qui téléphonait
« Une Santana, noire, un seul suspect, plaque indéterminée. Faites fermer toutes les entrées du cinquième périphérique. Putain, on l'a peut-être laissé filer. »
Shi Xiang sonda la pièce et remarqua des impacts de balles sur le mur. Il étudia les cartouches tombées au sol.
Le tueur a tiré 5 balles, il l'a touché par 3 fois. Elle a tiré 2 fois, mais n'a pas atteint sa cible.
Puis, lui et un de ses collègues se baissèrent pour examiner le corps. Su Bingbing était toujours debout un peu plus loin, regardant discrètement Wei Cheng. Shi Xiang leva lui aussi la tête pour voir sa réaction. Sur son visage, on lisait un reste de choc et de tristesse, mais pas davantage. Il ne s'était pas départi de son côté empoté et semblait très serein en comparaison de Wang Miao.
« Vous n'avez pas l'air très perturbé. L'assassin était peut-être venu pour vous ?» dit Shi Xiang à Wei Cheng.
Wei Cheng eut un rire désespéré.
« Que voulez-vous que je fasse? Jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais rien d'elle. Plus d'une fois, je lui ai conseillé de mener une vie plus simple, mais... Ah, ça me fait penser à ce que m'avait dit l'abbé cette nuit-là. »
Shi Xiang se leva, il marcha jusqu'à se retrouver en face de Wei Cheng et sortit une cigarette.
« Je crois que vous avez encore des choses à nous dire. »
« Oui, quelques-unes, mais j'étais trop feignant pour vous les raconter. »
« Je vous conseille de parler, et vite. »
Wei Cheng réfléchit, puis dit
« Cet après-midi... Oh non, hier après-midi, Yufei s'est disputé avec quelqu'un dans le salon. » C'était ce Pan Han, le célèbre écologiste. Il s'était déjà disputé plusieurs fois dans le passé, mais il le faisait d'habitude en japonais, peut-être par crainte que je les comprenne. Mais hier, ils ne se sont pas donné cette peine, ils ont parlé en chinois et j'ai entendu quelques bribes de leur dispute. Essayez de nous rapporter le plus précisément possible le contenu de leur conversation.
Bien. Pan Han a dit, en apparence, « nous marchons ensemble, mais en réalité, nous sommes des ennemis irréconciliables. Liu Fei a répondu, « Oui, vous utilisez le pouvoir divin contre l'espèce humaine. » Pan Han, « Ton jugement n'est pas tout à fait faux. Nous avons besoin de la venue des dieux sur terre pour nous punir de nos péchés. Mais vous autres, vous voulez empêcher cette venue. Nous ne pouvons le tolérer. Si vous n'arrêtez pas de vous-même, nous n'aurons d'autre choix que de vous forcer la main. » Shen Yufei, le guide s'est laissé aveugler lorsqu'il a autorisé une bande de démons tels que vous à rejoindre l'organisation. Pan Han, en parlant du guide, à ton avis, dans quel camp est-il? Celui des adventistes ou celui des rédemptoristes? Es-tu capable de le dire avec certitude? Ces paroles ont plongé Shen Yufei dans un long silence, puis leurs voix ont baissé de volume et je n'ai pas entendu la suite. Et la voix qui vous a menacé par téléphone, à quoi ressemblait-elle? Vous voulez savoir si c'était celle de Pan Han? Je l'ignore, la voix a été faible, je n'ai pas bien entendu. Quelques voitures de police, gyrophares allumés, s'arrêtèrent à l'extérieur de la villa. Des policiers munis de gants blancs et d'appareils photo montèrent à l'étage et passèrent la maison au crible. Shi Xiang dit à Wang Miao de rentrer chez lui se reposer. Mais avant de partir, celui-ci alla trouver Wei Cheng dans la chambre où se trouvait le mini-ordinateur. « Pourriez-vous me donner un résumé de votre algorithme évolutionnaire des trois corps? Je souhaiterais le montrer à quelques personnes. C'est une demande un peu soudaine, je comprendrais bien entendu que vous refusiez. » Wei Cheng sortit un CD et le tendit à Wang Miao. « Tout est là-dedans. Tous les modèles et toutes les annexes. Soyez gentil, publiez tout sous votre propre nom, ça m'aiderait beaucoup. » « Non, non, je ne peux pas faire ça. Professeur Wang, je me souviens que vous êtes déjà venu ici. Vous êtes un gars bien, responsable. Si je peux vous donner un conseil, éloignez-vous de tout ça. Le monde est à la veille d'un grand bouleversement. Chacun devrait s'efforcer de passer le restant de sa vie en sécurité, ce serait déjà une chance. Ne réfléchissez pas trop. De toute façon, ça ne sert à rien. Vous avez l'air d'en savoir plus que ce que vous dites. Je vivais avec elle au quotidien, j'ai forcément une petite idée. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Wei Cheng sourit avec dédain. Les policiers sont des bons à rien. Dieu lui-même est impuissant. L'humanité est aujourd'hui arrivée à un stade où plus personne n'entend ses prières. Wei Cheng se tenait près de la fenêtre donnant sur le versant est. Au loin, derrière les gratte-ciels de la ville, on voyait percer les premières lueurs de l'aube. Curieusement, ce spectacle rappela à Wang Miao l'aube mystérieuse qui l'accueillait à chaque entrée dans le monde des trois corps. Je ne suis pas aussi indifférent que vous le pensez. Ces derniers temps, je n'arrive pas à m'endormir la nuit. Le matin, quand je vois le lever de soleil, j'ai toujours cette impression étrange qu'il est en fait en train de se coucher. Il se tourna vers Wang Miao et, après un long silence, il lâcha. Et tout ça parce que ces bienfaiteurs, ou ces dieux, comme elle les appelle, sont incapables de se protéger eux-mêmes.